Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, une diplomatie féministe est-elle possible? Comment promouvoir la place des femmes sur la scène internationale et en politique étrangère si peu de femmes ambassadeurs en France, par exemple, et à des postes souvent de moindre importance? Emmanuel Macron, à son arrivée à l'Élysée, s'y est pourtant engagé. Aujourd'hui, environ 25% de femmes ambassadrices ou consuls pour l'Hexagone. Les résistances sont toujours nombreuses, comme l'évoque une pionnière, Sylvie Berman, ancienne ambassadrice en Chine, au Royaume-Uni ou encore jusqu'à récemment en Russie.
Moi, je suis rentrée en 1979 et c'est une époque où je me souviens que nous faisions un stage et le chef du protocole nous avait reçu ma promotion et nous avait dit de manière bien sonore « Bonjour messieurs, et bien messieurs, j'espère que votre carrière dans cette maison » et effectivement, ignorant totalement les deux ou trois femmes qui étaient présentes ce jour-là, ce qui a même fait sourire les hommes.
Voilà, il reste du chemin à parcourir. Diplomatie féministe, le concept est suédois et il a les traits de son ancienne ministre des Affaires étrangères, Margot Wallström, notre invitée à la tête de la chancellerie suédoise jusqu'en 2019, après 10 ans à la Commission européenne et 2 ans envoyée spéciale des Nations Unies pour les violences faites aux femmes et aux enfants dans les conflits. Le documentaire The Feminister de Victor Nordskjold, présenté au FIPADOC, qui a ouvert ses portes hier et qui se tient jusqu'au 26 janvier à Biarritz, raconte son action. Bonjour madame, bonjour Margaret Wallström.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. Bonjour.
Bonjour.
Diplomatie féministe. Qu'est-ce que vous, vous mettez derrière ces deux mots? Est-ce que c'est juste une question d'incarnation? Une femme ministre des Affaires étrangères ou une femme diplomate? Est-ce que c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire aussi un principe d'égalité, ou est-ce que ça va même encore plus loin? Est-ce que derrière diplomatie féministe, vous mettez un sens à l'action menée?
Actually, I pronounced a feminist foreign policy.
Moi, je parle de politique étrangère féministe. Et pourquoi je choisis ce vocable? Parce qu'il faut commencer à regarder la réalité en face. Il y a trop peu de femmes autour de la table de négociation, il y a trop peu de femmes qui servent de médiateurs, ou plutôt de médiatrices ou de négociatrices. Et en même temps, on reconnaît le rôle très particulier que les femmes peuvent jouer dans des situations aussi bien de paix que de guerre. Et ce que nous savons de notre expérience, c'est que s'il y a davantage de femmes, il y a davantage de paix. Et on constate encore qu'il y a beaucoup de processus discriminatoires à l'encontre des femmes dans le monde entier. Et donc, il nous paraît nécessaire de se servir de cette politique étrangère féministe comme véritable outil pour faire avancer les choses. Donc c'est une question de démocratie, mais en même temps, c'est un outil tout à fait pratique pour faire changer le monde.
Là où il y a plus de femmes, il y a plus de paix. Ça, c'est pas un lieu commun.
C'est
pas simplement un lieu commun. C'est bien les faits. On a constaté que lorsque les femmes sont incluses dans la délégation de négociation, si elles sont autour de la table pour signer des accords de paix, l'expérience nous montre que il y a davantage d'options qui sont mises sur la table et les accords de paix sont susceptibles de durer plus longtemps. C'est constaté, c'est un fait, et en fait on peut assez facilement le comprendre. Pourquoi? Parce que les femmes d'abord représentent à peu près la moitié de la population humaine. Sans elles, comment peut-on espérer préserver la paix? Je crois que là, c'est un enseignement que nous avons tiré de l'expérience, et au cours de nos 2 années en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Suède a pu veiller à ce que les résolutions votées là incluaient justement des éléments concernant le rôle des femmes dans le maintien de la sécurité. D'ailleurs, nous avons été amenés à briefer le Conseil de sécurité en incluant justement des femmes pour faire justement les briefings. Tout cela a été pris en compte jusqu'au plus haut niveau des Nations Unies.
Pourquoi vous soulevez cette question? Mais est-ce qu'au fond, ça tiendrait à des qualités intrinsèques des femmes, culturelles aussi, éventuellement? Ou est-ce que, et là on en revient au simple principe d'égalité, la présence de femmes dans une assemblée permet de casser un entre-soi masculin et donc capable d'en changer les codes qui jusqu'ici prévalaient.
Pour moi, c'est surtout une question de démocratie et effectivement d'égalité. Mais comme je l'ai souligné, les femmes représentent la moitié de l'humanité, mais on trouve qu'elles sont finalement peu présentes dans la signature des accords de paix, des négociations. Je crois qu'il y a moins de 10% des accords de paix qui sont signés par des femmes. Ce qui est clair aussi, c'est que les femmes ne doivent pas simplement se considérer comme des victimes. Elles veulent pouvoir assurer le changement de leur propre existence, d'être associées aux décisions qui concernent l'avenir de leur pays. Et surtout, justement, en matière de paix et de sécurité, ce que nous savons, c'est que les femmes jouent un rôle crucial dans les négociations, dans les guerres, les conflits actuels. Ce que l'on constate, c'est que les femmes, bien entendu, sont touchées, sont en tant que victimes, enfin en tant que civiles, elles sont des victimes de la guerre moderne, des conflits, c'est clair. Mais il y a des responsabilités qu'elles peuvent prendre pour que la vie continue. C'est encore les femmes qui s'occupent des enfants, qui s'assurent que la société ou qu'un simple village puisse continuer à fonctionner. Et il me semble que c'est vraiment une question de démocratie, de veiller à ce que les femmes puissent jouer leur rôle et soient représentées, prises en compte, même dans des situations de guerre ou de conflit.
Vous auriez pu vous contenter d'être une femme en politique, c'est-à-dire une fois arrivée là, et on va revenir sur les obstacles que vous avez pu rencontrer durant votre parcours, Margot Wallström. Une fois arrivée là, vous avez choisi de faire la promotion de cette politique étrangère féministe, c'est-à-dire de tenter d'ouvrir des portes pour les autres aujourd'hui et éventuellement pour les prochaines. Quelle réception, d'abord chez vous, dans votre pays, de cette idée de diplomatie féministe? Est-ce que ça a fait sourire les hommes autour de vous, ou est-ce que vous avez tout de suite reçu le soutien de vos pairs?
Lorsque nous avons lancé cette idée d'une politique étrangère féministe, la plupart des gens ont bien compris qu'il s'agissait là d'un thème important. Alors, effectivement, tout le monde n'a pas aimé le vocable politique étrangère féministe. Peut-être le mot féministe les choquait. Donc, il a fallu expliquer quand même, éduquer un peu le public pour faire comprendre, peu importe le mot, il faut simplement savoir que les femmes comme les hommes doivent avoir les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes opportunités dans la société. Mais à partir de là, il faut pouvoir avoir une approche pratique pour justement mettre en place une politique étrangère féministe digne de ce nom. Alors, ça n'est pas parce que les femmes sont intrinsèquement meilleures que les hommes, c'est pas cela. Par contre, les femmes apportent quelque chose d'autre, un autre éclairage, une autre expérience, une autre connaissance, bien souvent. Par exemple, justement, dans des négociations, dans des médiations, les femmes peuvent apporter quelque chose de nouveau. Mais il y a essentiellement trois concepts qui doivent lier notre travail, et notamment dans les ambassades. D'abord, veiller aux droits des femmes. Est-ce que les femmes ont les mêmes droits sur le plan juridique, les mêmes droits humains? On pense notamment à la question de savoir si les femmes, surtout les filles, ont accès à l'éducation. Est-ce qu'elles peuvent bénéficier des mêmes droits d'héritage? Est-ce qu'il y a des mariages forcés, des fillettes qui sont forcées à se marier? Est-ce qu'on peut, dans certains cas, justement, améliorer leurs droits? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la représentation. Les femmes et les filles sont-elles correctement représentées dans des instances politiques, économiques ou autres, dans les instances décisionnelles où les décisions ont une incidence sur leur vie? Et est-ce que l'on peut, là encore, améliorer le processus? Si vous avez, par exemple, des femmes qui veulent justement faire de la politique, Qu'est-ce que cela entraîne? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et puis, le troisième pilier, c'est les moyens, les ressources. Bien évidemment, au départ, il faut avoir disposé de statistiques fiables, voir s'il y a des budgets dans les pays pour veiller à ces questions d'égalité homme-femme, ou de questions de genre, comme on les appelle, voir s'il y a dans les relations hommes-femmes des politiques qui peuvent faire améliorer les choses. Est-ce que ces moyens, est-ce que ces budgets veillent à ou permettent d'améliorer le lot des filles et des femmes? Et là, lorsqu'on a une démarche pragmatique comme cela, il y a des résultats très concrets. Alors, évidemment, le quatrième grand pilier, c'est ce qu'on appelle le reality check, c'est-à-dire le constat, vérifier un peu les résultats au regard des efforts. Et lorsque on regarde les choses à travers ce prisme, je pense notamment à cet ambassadeur qui m'a demandé, est-ce qu'il faut également inviter des femmes à l'ambassade pour nous briefer ou est-ce que nous sommes devenus un petit peu, limités dans notre démarche en ne voyant les choses que du point de vue masculin? Ça, c'est une question légitime qui a été posée, et heureusement. Par notre démarche, nous avons pu faire avancer les choses et améliorer les choses pour les femmes. Je pense à l'exemple quand même de notre ministère des Affaires étrangères. Nous avons augmenté de 10% le nombre de femmes ambassadeurs, ambassadrices dans le monde. Bon, là c'est une question donc de représentation, mais il ne faut pas s'en tenir là, il faut rester crédible, il ne faut pas envoyer n'importe qui. Et ce que nous avons pu faire, enfin, il faut quand même affronter la réalité. Au départ, on nous ignore, ensuite on se moque de vous, ensuite on lutte contre vous, et enfin vous gagnez. C'est ça le processus, et là il faut passer par ces étapes. Je crois que c'était le sort de cette politique étrangère féministe.
Et on n'est jamais à l'abri d'un retour en arrière. On le disait, il reste un long chemin à parcourir, et on vous voit dans ce documentaire qui vous est consacré de Féministère, qui sera présenté donc au FIPADOC cette semaine, déplorer notamment l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis.
Quant à leur manière de diffamer Hillary Clinton, c'était horrible. Et il y a ce point. Devrait-on permettre à quelqu'un comme lui, qui a utilisé ce genre d'argument, de gagner? Cela ne fait que souligner à quel point l'enjeu est important. Un tel sexisme et une telle misogynie, exprimés si ouvertement, malheureusement, ça faisait partie de la campagne de Trump. Je pense que nous devons agir dignement. On doit désormais faire preuve de courtoisie en tant que représentant de l'ONU. Il en va d'abord de notre intérêt. Et je pense que nous devons aussi faire preuve de sagesse dans notre manière de parler de ce qui concerne Trump, car cela peut se transformer en cercle vicieux. Il faut faire attention au choix des mots.
Cette campagne américaine, cette campagne pour la présidentielle qui a opposé Donald Trump à Hillary Clinton, elle vous a particulièrement marqué?
Marqué, oui. Enfin, moi-même, en tant que ministre des Affaires étrangères à l'époque, j'étais très active. Nous avions la possibilité d'avoir une femme secrétaire générale des Nations Unies et, bien entendu, une femme présidente des États-Unis. C'était une situation historique. Alors, nous avons un excellent secrétaire général des Nations Unies, mais enfin, ce n'est toujours pas une femme. Et ce que nous avons vu sous le président Trump, c'est malheureusement, effectivement, un retour en arrière sur des questions très importantes qui, justement, touche les femmes et ce qui concerne notamment les droits sexuels, génésiques. Le budget américain a été réduit, ce qui signifie que des vies sont perdues en raison de la disparition de ces projets qui veillaient à protéger les femmes. Pourquoi? Parce que ces activités qui touchaient un petit peu à tout ce qui concerne les femmes, l'éducation sexuelle à l'école, par exemple, pour que les jeunes filles sachent un peu ce qui peut leur arriver, mais également des projets très concrets qui pouvaient avoir une incidence positive, hein, permettre aux femmes d'être maîtresses de leur propre corps, de pouvoir avoir recours à l'avortement, notamment après un viol. Eh bien, si on empêche tout cela, on peut imaginer que cela compliquera la vie des femmes.
Et vous pensez qu'Hillary Clinton, présidente, les aurait sanctuarisés, ces budgets ?
Yes, I absolutely.
Ah oui, absolument. Je n'en doute pas.
I think that she has seen so many of these projects.
Elle a vu ces projets d'ailleurs en tant. Elle était elle-même secrétaire d'État, enfin ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, et elle a touché de près à ces projets. Et je sais qu'elle y était très attachée. Elle était très engagée dans ce sens-là. Alors, je ne dis pas qu'il nous appartient de dire qui doit être le président des États-Unis. Enfin, sur cette question-là, chaque candidat doit quand même être mis à l'épreuve.
Et pourtant, parmi les voix qui ont élu Donald Trump, dans l'électorat républicain, mais surtout dans celui de Donald Trump, il y avait beaucoup de femmes qui l'ont choisi, lui et pas elle, comme étant leur candidat et leur président.
Yes, I know, and I think there was, of course, a mistrust in the whole political
C'est vrai, et je crois qu'il y avait à l'époque une défiance, une méfiance envers l'establishment politique. Et je pense que Donald Trump en a bénéficié. Les gens étaient, l'électorat était assez mécontent. Ça pourrait expliquer ce vote. Mais ce que nous avons vu depuis l'élection de Donald Trump. C'est que je vois des choses comme assez perturbantes. Il y a une véritable animosité à l'encontre de l'Union européenne aux États-Unis. Ce n'est pas simplement un cas d'incompréhension, la fameuse question de savoir qui appelle-t-on pour parler à l'Europe. Il y a également une attitude qui concerne justement les femmes. Et c'est une nouvelle réalité politique dont il faut tenir compte parce qu'elle est très négative. Il semblerait qu'il faille maintenant abandonner un certain nombre d'accords internationaux ou même d'interrompre des négociations internationales. Enfin, tous ces mouvements multilatéralistes semblent maintenant être perdus dans ce nouveau contexte américain.
Et vous avez été dans deux commissions commissaires européennes, dans la commission Prodi puis la commission Barroso. Aujourd'hui, la bonne échelle pour agir, pour porter cette diplomatie féministe, d'après vous, Margot Wallström, quelle est-elle ?
I think that nothing will happen without women fighting.
Ce que je peux vous dire, c'est que les femmes doivent de toute façon rester solidaires, lutter ensemble pour préserver leurs droits, pour obtenir de nouveaux droits dans la société. C'est en tant que femmes que nous devons nous rassembler, comme nous l'avons fait lorsqu'il s'agissait de lutter contre les violences envers les femmes, contre les discriminations, que sais-je. Ça, c'est notre façon d'agir, ce sera notre façon d'avancer, de faire bouger les choses. Et bien sûr, il faut tenir compte quand même des résultats obtenus au fil des années. Il y a eu des résultats. Dès lors que les femmes ont pu se mobiliser, elles ont pu obtenir des résultats lorsqu'elles ont exprimé leurs inquiétudes et leurs souhaits.
À la tête du ministère des Affaires étrangères en Suède, poste que vous avez occupé jusqu'à l'an dernier, l'une de vos plus grandes victoires, peut-être la plus grande, semble être l'entrée de la Suède au Conseil de sécurité des Nations Unies. On écoute.
Je ne peux pas m'empêcher de dire à quel point je suis fière et heureuse. On va présider le Conseil pendant le premier mois et ce pourrait être au moment où une autre femme préside les Nations Unies pour les États-Unis. Ce serait alors l'opportunité pour tous d'étendre une vraie politique extérieure féministe au monde entier.
Voilà, extrait du documentaire The Feminister qui vous est consacré et qui est présenté cette semaine au FIPADOC à Biarritz demain pour une première projection. Margot Wallström, Pourquoi cette entrée de votre pays, la Suède, au Conseil de sécurité des Nations Unies est probablement, ou semble être la victoire la plus importante pour vous? Qu'est-ce que ça dit de votre engagement, à vous, durant toutes ces années sur la scène internationale?
C'était une victoire, certes, mais elle était assez inattendue, puisque nous avons brigué le poste assez tard au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il y avait d'ailleurs quelques controverses quant à savoir comment traiter certaines questions. Je crois que quand même notre arrivée a démontré que le Conseil nous faisait confiance, souhaitait nous voir en son sein. Vous voyez qu'on n'avait pas d'arrière-pensée, d'agenda secret, que nous œuvrions véritablement pour la coopération internationale au sein des Nations Unies. Ça, je crois que les gens ont pu le constater. Mais en même temps, toute cette histoire de lancement du concept de politique étrangère féministe en soi a été un succès pour la Suède. D'ailleurs, la semaine dernière encore, le Mexique a annoncé qu'une politique étrangère féministe serait menée par ce pays. Le Canada avant lui, d'autres pays reprennent cette idée en constatant que c'est une politique intelligente qui peut donner des résultats. Et c'est vraiment une question pas simplement de femmes, c'est une question de paix, de sécurité. C'est essentiel de mener une telle politique pour avoir des résultats dans ces grands dossiers. Et donc, il s'agissait de veiller à bien reconnaître que les femmes soient mieux représentées, que les femmes soient véritablement autour de la table de négociation sur des questions de paix et de sécurité. Et là, je crois que nous avons réussi à le faire comprendre, et dans le texte des résolutions, justement, du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a pu faire bouger les choses par cette présence. Notre ambassadeur aux Nations Unies, Olaf Scholl, m'a dit que quelquefois, il avait l'impression que c'était à lui qui devait lever la main, poser la question de savoir où sont les femmes. C'était toujours à lui que revenait ce rôle ingrat. Mais au bout du compte, on se dit, quel a été le résultat de tout cela? À un moment donné, vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies dans son intégralité qui s'est rendu au Mali. Eh bien, les femmes maliennes sont venues voir notre ambassadeur et lui dire que parce que vous avez pu faire passer dans les textes des résolutions sur le Mali, vous avez pu parler du rôle des femmes. Grâce à cela, nous avons pu, nous les femmes, rencontrer le président, nous avons pu avoir notre place à la table de négociation. Et ça, pour nous, c'était très important, nous ont-elles dit. Et ça a véritablement changé les choses pour elles.
Voilà, les coulisses de la diplomatie sont rarement publiques. C'est un monde quand même de négociations et de tractations qui reste assez secret. C'est pour ça que vous avez accepté, Margot Wallström, qu'une caméra vous suive pendant tous ces mois, accepter d'être filmé par souci d'exemplarité.
Puis il y a une question de transparence. Moi, je trouve que c'est important de montrer les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça qu'on établit la confiance. D'abord, il y avait confiance entre moi-même et le producteur. L'idée même de présenter les choses telles qu'elles sont, même en coulisses, montrer que nous n'avions justement rien à cacher, que les choses n'étaient pas toutes courues d'avance, qu'il y avait encore des questions qui se traitaient en temps réel, et on voyait toutes les vicissitudes des processus de négociation. Vous voyez tout cela en coulisses. Ça, je crois que c'était très utile, et je crois que les spectateurs devraient quand même être conscients de tout cela, de voir. Alors, ça, je ne dis pas que c'était facile. Par moments, ça n'était pas évident. Je me suis heurté à pas mal de résistance. Mais à la fin, le documentaire a pu se faire pour montrer véritablement ce que sont les processus politiques qui se déroulent dans ces sphères-là.
On a toujours quelque chose à cacher. Qu'est-ce que vous ne montrez pas dans ce documentaire volontairement? Aujourd'hui, vous êtes libre de parole aussi puisque vous n'êtes plus en poste.
Oui, l'avantage de ne plus être lié au secret me permet de vous en parler. Alors, il y a eu des moments. Disons qu'il y a des moments où il faut faire un compromis, il faut accepter de transiger, de trouver des solutions qui nécessite un petit peu de protéger les gens, de permettre aux gens de pas perdre la face en public. Et ça, évidemment, on va pas le montrer à l'écran. D'ailleurs, je ne voulais pas non plus montrer mes propres émotions. Alors, on voit de temps en temps mes propres larmes couler. Il y a eu des moments douloureux. J'espère que d'ailleurs, en me montrant tel que je suis, on voit que je suis un être humain. Et c'est quand même un peu l'une des choses qu'on voit dans ce documentaire.
On voit que vous êtes une femme, surtout parce qu'il n'y a que les femmes qui pleurent devant une caméra.
Will dare cry in front of a camera.
Do you think so?
Maybe
we'll see. Sometimes you see.
Peut-être. Non, mais je crois qu'aussi, il y a aussi des hommes qui pleurent. Ça peut exister. Cela étant, j'ai travaillé pendant deux ans aux Nations Unies. J'ai rencontré des victimes de violences sexuelles dans les pays en situation de guerre ou de conflit. Et évidemment, en tant que simple particulier, j'aurais pleuré avec elles. Mais là, il fallait que je garde ma place. Je représentais les Nations Unies. Je n'étais pas là pour pleurer avec les victimes, même si je compatissais, mon rôle était de faire entendre leur voix, faire connaître leur expérience au plus haut niveau des Nations Unies. Et pour moi, c'est un petit peu la même chose. En tant que ministre, on a un rôle, une place à tenir, il faut jouer son rôle. Il faut respecter ses attentes.
Voilà, accéder à de telles fonctions, c'est faire aussi une croix en partie sur sa vie privée, sa famille, ses proches. Vous racontez dans ce documentaire l'anniversaire oublié de votre mari, happé par la campagne menée pour entrer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous racontez aussi la santé sacrifiée, ce qui explique en partie ou en grande partie votre décision de décrocher ou de raccrocher les crampons à un moment ou à un autre. Et puis vous racontez la solitude.
Sur un plan purement personnel, on ressent une certaine solitude au milieu de tout ça. Le mot « solitude » peut paraître étrange lorsqu'on est entouré de gens en permanence. Il y a toujours de l'entourage autour de soi. Au travail, il y a toujours plein de gens avec qui on socialise. Mais au milieu de tout ça, le sentiment d'isolement peut être encore plus fort. On est seul face aux décisions politiques et aux priorités. Et c'est à nous d'endosser la responsabilité quand quelque chose ne va pas. Parfois, ça vous submerge. Vous êtes assis quelque part dans votre chambre d'hôtel en pleine nuit et vous vous dites « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Vous ne vous sentez pas à votre place. Je comprends la tentation que pourraient avoir certaines personnes de se mettre à boire. Il y a des manières de faire taire tout cela.
Oui, c'est peut-être une autre différence. On aurait tendance à penser que les hommes politiques, les hommes en fonction, meurent sur scène. Les femmes peuvent accepter à un moment, comme vous l'avez fait, de dire « je m'arrête là, j'ai assez donné pour l'intérêt général et à un moment maintenant je me reconcentre sur ma famille ». Quand est-ce que quand même dans votre parcours, Margot Wallström, vous avez pris conscience que les femmes ne sont pas des hommes politiques comme les autres ?
Et vous savez, dans toute ma carrière politique, à travers toutes mes activités, j'ai pu avoir aussi bien, disons, les différences entre les hommes et les femmes politiques. Enfin, pas simplement d'ailleurs dans la sphère politique, dans la sphère sociale. J'ai pu voir les discriminations, les préjugés à l'encontre des femmes. Mais ce que j'ai vu également, c'est qu'il y avait des progrès. On essaye de faire bouger les choses. Pas simplement pour les femmes. Il faut quand même reconnaître que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Cette notion d'égalité homme-femme a vraiment acquis une réelle emprise, notamment dans mon pays. Et les hommes en sont aussi bien conscients que les femmes. Enfin, il y a un premier ministre suédois qui avait dit que quand on est en disons, au sommet du gouvernement, on est à la fois jamais seul, mais en même temps, on est tout le temps seul. Et c'est un petit peu ça qui, enfin, je pense, qui ressort du film lorsqu'on m'a interrogé à ce sujet, parce que on porte sur ses épaules une responsabilité importante et c'est évidemment le ministre qui assume les responsabilités des erreurs commises, même si son équipe est excellente, ce sera le ministre visible qui sera rendu responsable de l'échec.
Et ça a été le cas notamment sur le dossier du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous vous êtes senti seul le jour où, avec le gouvernement suédois, vous avez décidé de reconnaître l'État palestinien, inaugurer par la suite une ambassade palestinienne à Stockholm?
Nous savions d'avance que cette reconnaissance entraînerait des réactions très violentes. Alors heureusement, au sein de l'Union européenne, il y avait d'autres pays, notamment la France, qui ont souhaité nous accompagner et voir comment nous pourrions faire avancer justement les choses sur cette question, tout en restant ferme sur la question d'une, enfin, l'idée d'une solution à deux États qui a toujours été la position européenne. Et donc, il ne fallait pas se départir de cette notion. Certes, nous avons pris un pas audacieux, en quelque sorte. Nous attendions à des réactions et il fallait les assumer. Mais effectivement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis, j'ai subi des attaques ad hominem, aussi bien d'ailleurs verbales que des menaces de mort et que sais-je sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a pas été facile. Mais pour autant, nous ne regrettons pas cette décision, puisque finalement, elle aboutit à faire avancer les choses. En tout cas, a pu au moins donner un nouvel espoir aux jeunes générations du Proche-Orient, qui voit que la situation actuelle n'est pas tenable et qu'elle ne peut pas continuer ainsi.
Voilà, elle a une capacité rare à provoquer des remous, a dit de vous un jour l'une de vos opposantes, le chef de file de l'opposition en Suède. La diplomatie féministe, a noté aussi la tribune conjointe de Jean-Yves Le Drian et de Marlène Schiappa, parue l'an passé, qui plaide dans le sillon de ce que vous avez toujours défendu pour une égalité au sein de ce monde, au sein des affaires étrangères, ici en France, du ministère jusqu'aux ambassades. The Feminister, le film qui vous suit, qui vous raconte, est à voir cette semaine au FIPADOC à Biarritz, avant d'être diffusé bientôt prochainement sur nos télés. Il est signé Victor Nordenskjöld. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et merci à votre voix française, Robert Wolfenstein. Merci.
Merci à vous.
Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de François Bréus et de Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Théo Gomard, à la technique et à la vidéo Jordan Fuentes. Très bel après-midi à tous sur France Culture.